Serez-vous celui ou celle qui fera basculer le monde? Plus je me passionne pour l'étude du sens des maladies chez les êtres humains et plus je me passionne aussi pour l'étude des comportements instinctifs, des comportements inconscients chez les êtres humains, plus je suis fasciné de voir que l'étude du comportement animal peut nous apporter des choses absolument fondamentales dans notre compréhension de notre mode de fonctionnement en tant qu'être humain. Parce que, bon, il ne faut quand même pas l'oublier, les êtres humains, eh bien, nous faisons partie d'une longue chaîne phylogénétique. Alors, c'est un mot, si vous ne le connaissez pas, allez voir dans le dictionnaire. Ça s'écrit P-H-Y, phylogénétique. Phylogénétique, en fait, c'est comment les espèces vivantes se sont succédées les unes les autres et comment finalement nous avons évolué depuis le premier unicellulaire et puis le premier pluricellulaire, depuis les premières amibes, depuis les premières méduses, etc., les premiers reptiles, et puis petit à petit, comment est-ce que tous ces êtres vivants se sont différenciés pour arriver à différentes branches qui sont étudiées par la zoologie. Alors, je ne vais pas vous donner un cours de zoologie aujourd'hui, mais on nous dit quand même que nous descendons des grands primates, nous descendons des singes, et je vais vous parler aujourd'hui des macaques qui vont peut-être nous éclairer sur un élément essentiel à nous qui avons l'envie de peut-être changer quelque chose de significatif dans ce monde. En tout cas, si vous écoutez ma chaîne plutôt que d'autres chaînes, peut-être que vous vous reconnaissez dans le fait de vouloir participer consciemment à l'évolution du monde et surtout à l'évolution des consciences. C'est pas pour rien que cette émission s'appelle « Grandir en conscience, en amour et en compétence ». Et vous allez voir que aujourd'hui, pour grandir en conscience, en amour et en compétence, mais surtout pour aider l'humanité à grandir en conscience, en amour et en compétence, eh bien, l'exemple des macaques japonais dont vous voyez une image derrière moi, peut nous inspirer et peut-être nous donner des indications de ce que nous pourrions faire. Alors, c'est quoi cette image et c'est quoi cette histoire de macaque? Eh bien, c'est une histoire qui commence en 1952 dans une des îles de l'archipel japonais. Cette île s'appelle Koshima et un certain nombre d'éthologues, puisque les éthologues, ce sont ceux qui étudient le comportement animal, donc ce sont des scientifiques qui consacrent leur vie à observer comment vivent les animaux et comment ils réagissent à un certain nombre de stimuli. Et donc, ces scientifiques observaient les macaques japonais. Et un jour, pour justement être en contact régulier avec les primates, avec les macaques, un scientifique a l'idée de leur lancer des patates douces, parce qu'ils savent que ces macaques adorent les patates douces. Donc, ils lancent des patates douces sur le sable de cette île de Koshima. Et évidemment, les macaques empoignent ces patates douces et commencent à les manger. Mais les patates mélangées avec du sable, ce n'est pas très très agréable, mais voilà, ils préfèrent quand même se servir de nourriture plutôt que d'aller chercher leur nourriture eux-mêmes. Jusqu'à ce qu'une jeune femelle de 18 mois prenne la patate et ait l'idée d'aller rincer la patate dans un ruisseau qui se trouvait à côté. Et elle trouve ça évidemment beaucoup plus bon, donc beaucoup meilleur, et beaucoup plus bon, beaucoup meilleur. Et elle enseigne aussi à sa mère et puis à ses congénères de laver les patates avant de les manger. Et petit à petit, tous les jeunes macaques, donc tous ceux qui naissent, commencent à adopter cette habitude, alors que les adultes, les macaques plus âgés, regardent ça sans changer de comportement. Et cette étude, donc, elle a commencé en 1952 et jusqu'en 1958. Donc, on voit de plus en plus de macaques parmi les jeunes, adopter ce comportement qui est un comportement plus adapté, plus agréable pour consommer cette patate qui sont lancées par les scientifiques. Et dans l'histoire telle qu'on la raconte, admettons qu'il y avait 99 macaques, un jour de 1958, 99 macaques, 99 singes qui avaient pris cette habitude de laver les patates douces. Et ce jour-là, un centième singe adopte l'attitude qui était déjà adoptée par 99 autres. Et la grande surprise des éthologues, c'est de constater que instantanément, à partir de ce jour-là, tous les singes de l'île de Koshima ont adopté simultanément ce comportement qu'ils avaient bluffé pendant plusieurs années. Ça veut dire que, instantanément, à partir du moment où le centième singe, à partir du moment où on a atteint une certaine masse critique, alors centième, c'est évidemment symbolique, hein, peut-être qu'il y en avait 56 et c'est au 57e que tout a basculé. Mais en tout cas, ce que les scientifiques ont observé, c'est que, instantanément, à partir du moment où une nouvelle personne avait adapté un nouveau comportement, tous les singes de la communauté de Koshima ont adopté le même comportement sans aucune réticence et sans aucune résistance. Et encore mieux, la grande surprise des scientifiques, c'est que des macaques qui se trouvaient sur d'autres îles, qui n'avaient jamais été en contact avec les scientifiques et qui n'avaient jamais été en contact avec ce comportement de laver les patates douces, ont adopté simultanément le même comportement vis-à-vis des patates douces. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de transmission sans fil, une transmission invisible d'un comportement à tous les singes de toutes les îles de l'archipel du Japon. Et ça a donné effectivement lieu à cette fameuse expérience du centième singe qui a été publiée, qui a été rendue populaire par un auteur dont j'ai oublié le nom, mais il s'appelle Ken Case. Et donc cet auteur effectivement a fait connaître cette expérience. Alors c'est vraiment intéressant de réfléchir à cette expérience parce que ça peut nous inspirer sur le potentiel que nous pourrions avoir, chacun et chacune d'entre nous, de faire basculer, à un moment donné, les comportements de nos congénères, c'est-à-dire des autres êtres humains sur la planète. Maintenant, la grande question, c'est de savoir combien d'humains faudra-t-il pour arriver à cette masse critique qui ferait basculer l'ensemble de la communauté humaine. Bien, mais quand même, on peut déjà tirer deux enseignements de cette expérience du centième singe. Le premier enseignement, c'est que il ne faut pas nécessairement une majorité d'individus pour faire basculer la communauté. C'est-à-dire que, d'après les études, les observations scientifiques qui ont été faites donc dans les années 50, on se rend compte qu'il n'y avait pas 51% de singes qui avaient adopté le nouveau comportement pour que tout bascule. En fait, on avait bien moins de la moitié des individus qui avaient adopté ces comportements et qui ont fait basculer le reste de la communauté. Alors, qu'est-ce qu'il fallait comme condition ? Ben, la condition, c'était d'avoir une conscience plus aiguisée, d'avoir un objectif plus focalisé que le reste de la communauté qui n'avait pas un objectif spécial, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est un peu la masse informe des individus sur Terre, il faut quand même le reconnaître, avance dans la vie, avance dans l'évolution sans avoir un objectif précis. Hein, on le sait, de nombreuses études ont été faites, de nombreuses enquêtes sociologiques ont été faites. C'est une minorité, les humains qui ont un objectif précis et qui veulent réaliser leur objectif dans leur vie. Ça représente peut-être 3, 4, 5% des individus. Mais ces 3, 4, 5% d'individus sont tellement focalisés, ont tellement une conscience claire de ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent entraîner, si vous voulez, la conscience défocalisée des 85, des 95 autres pourcents des humains qui, eux, vont là où le vent le pousse finalement. Et le vent, ici, c'est le vent de la conscience de certains individus focalisés. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Bon. Deuxième enseignement qu'on peut tirer, donc le premier enseignement, c'est que on peut faire basculer une communauté sans avoir la majorité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le basculement du comportement de toute la communauté s'est fait sans aucune violence. Parce qu'évidemment, dans une dictature, on est dans un cas de figure où on a une minorité qui, par la force, va imposer quelque chose à une majorité. Mais ici, ce n'est pas ça. C'est une minorité plus consciente, dont la conscience est plus élevée, qui fait basculer l'ensemble de la communauté, mais sans aucune violence. Est-ce que vous voyez ? Et donc, on n'est pas non plus dans le modèle démocratique où c'est la majorité qui l'emporte. Non, c'est la minorité plus consciente, plus focalisée, qui va l'emporter sur le reste, mais sans aucune violence. Bien. Deuxième enseignement qu'on peut tirer de cette expérience, c'est que le caractère soudain du basculement fait que même si la majorité silencieuse et la majorité défocalisée n'a pas adopté les nouveaux comportements, ils ont déjà quelque part l'information de ce nouveau comportement. C'est-à-dire que cette minorité focalisée et consciente possède un savoir-faire, une connaissance qui est déjà partagée à l'ensemble de la communauté, mais de façon potentielle. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'au moment où on atteint la masse critique, eh bien, toute la communauté bascule d'un coup parce que cette communauté sait déjà, elle a déjà la connaissance, elle a déjà le savoir-faire, mais sans nécessairement l'avoir actualisé. Vous me suivez ? Ben. Donc, si on veut comprendre cela, eh bien, c'est intéressant d'aller se tourner vers un biologiste anglais qui est toujours vivant à l'heure où je vous parle, c'est Rupert Sheldrake. Et Rupert Sheldrake a proposé toute une série de modèles pour essayer d'expliquer des choses complètement inexplicables par la science rationaliste, entre autres au niveau du comportement d'un certain nombre d'animaux, etc. Et il a proposé aussi un modèle qui s'intitule le modèle des champs morphogénétiques. Alors, si on regarde l'étymologie de morphogénétique, vous savez que j'adore l'étymologie. Morphein en grec, ça veut dire la forme, et genao, c'est un verbe en grec qui veut dire engendrer. Donc, un champ morphogénétique, c'est un champ qui engendre la forme. Bien. Et Rupert Sheldrake est parti d'un certain nombre de constats que l'on fait depuis des dizaines et des dizaines d'années dans le monde. On se rend compte, par exemple, que dans le monde de la recherche scientifique, lorsque on essaye de composer une nouvelle molécule artificielle, eh bien, il y a plusieurs laboratoires en concurrence qui travaillent pendant des années et des années. On essaye de créer un nouveau cristal, par exemple, un cristal artificiel, et pour cristalliser une forme, pour arriver à ce que cette forme soit réalisé, il faut énormément d'essais et d'erreurs avant de pouvoir arriver à cela. Et donc, vous pouvez avoir plusieurs laboratoires, 4-5 laboratoires dans le monde qui essayent de justement créer cette nouvelle forme de cristal qui est inconnue dans la nature. Mais ce qui est vraiment étonnant, et ça c'est vraiment observé de façon tout à fait scientifique et de façon tout à fait objective, c'est que lorsque un premier laboratoire parvient finalement à réaliser son premier cristal, comme par hasard, 3 mois plus tard, un autre laboratoire y parvient aussi, et puis 2 semaines plus tard, le troisième laboratoire, 1 semaine plus tard, le quatrième laboratoire, et 3 jours plus tard, le cinquième laboratoire. Et ça n'a rien à voir avec l'espionnage industriel, si vous voulez, parce que ici, c'est plus une contrainte physique, hein, c'est plus du domaine de la cristallographie, hein, pour ceux qui connaissent un peu cette discipline, et c'est vraiment faire en sorte que les atomes s'agencent selon une certaine, je dirais, périodicité et avec une certaine structure et une certaine orientation pour pouvoir, cristalliser l'ensemble de la matière. Et ça, que vous espionniez ou pas votre concurrent, c'est pas ça qui va faire que les atomes vont s'organiser. Par contre, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'une fois qu'un laboratoire, à force de patience et d'essais, parvient à faire en sorte qu'il y ait pour la première fois dans l'univers un cristal avec une certaine structure d'organisation, eh bien, comme par hasard, 3 mois plus tard, le laboratoire numéro 2 va pouvoir le faire avec plus de facilité. Puis le laboratoire numéro 3 avec encore plus de facilité, le 4 et le 5 avec encore plus de facilité. C'est quand même assez extraordinaire de se rendre compte que il y a une information qui peut transcender l'espace et le temps et qui fait que à partir du moment où on acquiert un savoir-faire et une compétence, eh bien ce savoir-faire va se disséminer à travers le temps et l'espace sans aucune barrière. Et ça, c'est vraiment très inspirant parce que cela veut dire que les pionniers, au niveau, maintenant je reviens aux êtres humains, ça veut dire que les pionniers vont avoir beaucoup, beaucoup plus de travail à faire pour tracer une nouvelle voie, pour mettre en place un nouveau comportement. Hein, Rupert Sheldrake donne encore une image que je trouve très très belle pour expliquer cette notion de champ morphogénétique. Il dit, imaginez que vous ayez une toile cirée, complètement horizontale et bien tendue. Donc vous voyez une espèce de toile caoutchouteuse, là, caoutchoutée, et vous mettez au milieu de cette toile caoutchoutée une bille de plomb. Boum. Alors donc ça veut dire que au centre de cette toile cirée, vous allez avoir cette bille de plomb qui va faire une petite déformation. Et puis il dit lancer une deuxième bille de plomb sur cette toile cirée qui est parfaitement horizontale. Eh bien avec un peu de chance, cette bille de plomb va être déviée vers là où il y a un creux puisqu'il y a déjà une grosse bille de plomb qui fait qu'il y a une certaine déclivité et qu'il y a un certain creux qui est créé. Donc la deuxième bille de plomb va peut-être passer à côté et va rien faire, mais peut-être elle va boum tomber dans le trou. Mais peut-être pas. C'est-à-dire, ça représente, si vous voulez, les essais des premiers pionniers. Alors, il y a un pionnier qui réussit à réaliser quelque chose, mais le deuxième n'y réussit pas, le troisième non plus. Mais le quatrième, boum, il va tomber. Mais ça veut dire que les deux billes, à ce moment-là, vont être au même endroit et vont créer un trou un peu plus important. Mais en créant un trou plus important, la bille suivante va avoir encore plus tendance à être piégée dans le trou. Ce qui fait qu'on aura 3 billes dans le trou, et puis 4, et puis 5, et puis à un moment donné, le trou sera tellement profond que n'importe quelle bille qui n'a jamais fait d'effort, qui rentre sur cette toile cirée, c'est-à-dire dans ce champ morphogénétique, va être immédiatement attirée par ce trou qui a été créé par celles qui l'ont précédé. Alors moi je trouve cette image tout à fait fascinante, parce que quand vous regardez l'histoire humaine, à chaque fois ça a été la même chose. Les premières fois qu'on a dû mettre en place un nouveau comportement, ça a pris parfois, je ne sais pas moi, prenons l'exemple de la méditation, puisque je vais en parler dans quelques instants. Les premiers méditants, il y a quelques siècles d'ici, ou quelques millénaires d'ici, eh bien, mettaient parfois toute une vie de méditation pour arriver à l'illumination. Et plus on avance dans l'histoire de l'humanité, plus on se rend compte que des êtres qui commencent la méditation peuvent atteindre l'illumination après 6 mois, après 1 an, après 2 ans d'expérience. Alors qu'il y a ne fût-ce que quelques siècles de cela, il fallait 40, 50 ans pour arriver peut-être, sans aucune garantie, à l'illumination. Et c'est ça que je trouve très encourageant par rapport à l'avenir de l'humanité. Ce qui est encourageant, c'est que ce n'est pas nécessairement une minorité dictatoriale qui voudrait imposer par la force un certain nombre de choses, que c'est pas nécessairement cette minorité-là qui va gagner et qui va faire basculer le monde dans le chaos et dans la misère. Ça veut dire aussi que ce n'est pas la grosse majorité des gens inconscients, ceux que j'ai déjà nommés dans d'autres vidéos des vivants morts, c'est-à-dire des zombies, des gens qui n'ont pas une conscience bien alignée, qui vont un peu là où le vent le pousse. Eh bien, ce ne sont pas non plus ces gens qui constituent la majorité écrasante de l'humanité qui vont mener l'humanité à droite ou à gauche. Ce sont davantage ceux qui vont faire un travail d'élévation de leur conscience et un travail de focalisation de l'objectif qu'ils poursuivent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je viens de créer une nouvelle émission sur ma chaîne YouTube et qui sera reliée aussi sur ma page Facebook, qui est cette fameuse émission « Manifeste pour une meilleure vie ». C'est parce que si nous commençons tous à veiller à élever notre niveau de conscience et à focaliser ce que nous voulons voir apparaître comme monde meilleur, eh bien, nous avons davantage de chances, de probabilités de voir ce meilleur monde apparaître sous nos yeux à un moment donné, parce qu'à un moment donné, toute la communauté pourrait basculer. Bien. Et c'est à cela que je voulais venir, puisque aux États-Unis, il y a un mouvement qui a été lancé par un grand yogi qui est installé aux États-Unis qui s'appelle Maharishi Mahesh Yogi. Et en 2006, il a créé ce qu'il a appelé l'Assemblée pour une Amérique invincible. Bon, ça c'est très américain comme, comme terme. Enfin bon, on va passer là-dessus. Et ce qu'il a proposé en 2006, c'est de créer une assemblée de méditants, donc des gens qui pratiquaient la méditation transcendantale, puisque la méditation transcendantale, c'est quelque chose qui a été créé et qui a été diffusé aux États-Unis par Maharishi Mahesh Yogi. Et il a proposé que cette assemblée médite de façon régulière pour faire baisser la criminalité aux États-Unis. Et en 2006, il avait annoncé à l'avance que le FBI et les polices de tous les États allaient vérifier une baisse constante de criminalité aux États-Unis, malgré le fait que normalement la tendance était une tendance qui n'allait que en croissant. Et donc, évidemment, personne dans la presse à ce moment-là n'a cru Maharishi Mahesh au moment où il a fait cette grande déclaration et au moment où il a créé cette assemblée pour une Amérique invincible, vous imaginez ça d'ici, mais c'est pas grave. C'était une assemblée de gens qui avaient une intention très très claire, qui avaient un niveau de conscience qui avait été créé par leur capacité à méditer et à se concentrer. Et ils avaient un objectif extrêmement précis qui était de faire diminuer la criminalité aux États-Unis. Eh bien, en 2010, donc 50 mois après le début de cette expérience, voici ce que la presse titrait. Alors, je vous cite quelques extraits de presse. Le Time, le 15 novembre 2010, disait « Les crimes violents en Amérique, le plus bas depuis 1973 ». Le Wall Street Journal disait le 10 novembre 2010, donc tout ça c'est en 2010, « Taux de criminalité à New York le plus faible depuis les premières statistiques établies en 1963 ». Donc, vous vous rendez compte, en 2010, 1963, ça fait 47 ans. En 47 ans, ils observaient pour la première fois un taux de criminalité qui était le plus bas. Le Chicago Tribune disait le 9 novembre 2010, « Chicago peut terminer 2010 avec son plus bas taux d'homicide depuis 1965 ». Le Los Angeles Times disait le 14 octobre 2010, le taux d'homicide le plus faible depuis 1975. Et le Houston Chronicle, le 4 novembre 2010, disait diminution significative de tous les cas de criminalité grave au cours des 9 premiers mois de 2010. C'est quand même, moi je trouve que des expériences comme celle-là, elles interpellent. Et pourtant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une vérification expérimentale à l'échelle humaine de ce que peuvent donner des êtres humains qui sont déterminés à faire une différence significative dans le monde. Tout simplement. De la même façon que le centième singe a fait basculer, sans le savoir, parce qu'il ne savait pas qu'il était le centième singe, a fait basculer tout le reste de la communauté qui avait déjà en elle ce savoir-faire et cette compétence, mais sans l'avoir actualisé. Et je terminerai cette vidéo en vous demandant, sera-ce vous le centième singe qui ferait basculer la conscience de l'humanité, mais pas seulement la conscience de l'humanité, mais les comportements de l'humanité ? Sera-ce vous ? Peut-être pas, peut-être que oui, mais en tout cas, vous pouvez chacun et chacune d'entre vous faire votre part. Parce que plus nous serons nombreux, plus nous allons constituer cette masse critique qui fera qu'à un moment donné, n'importe quel nouvel être humain qui arrivera dans le champ morphogénétique sera nécessairement entraîné vers une vague de positivité et une vague de conscience alignée. Quatre choses à vous dire, rapidement. Première chose, merci pour tous les commentaires que vous laissez sous les vidéos. Continuez comme ça, j'adore vous lire, j'adore vous répondre et vous enrichissez de cette façon la communauté apprenante de tous ceux qui fréquentent cette chaîne YouTube. Deuxième chose, vous voulez aller plus loin, vous voulez avoir d'autres réflexions complémentaires par rapport au sujet d'aujourd'hui, eh bien, voici mes deux suggestions du jour. Il vous suffit de cliquer sur une des deux images pour aller plus loin dans la réflexion qui a été menée aujourd'hui. Troisième chose, si vous voulez être prévenu de chaque mise en ligne d'une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, eh bien cliquez sur la petite icône qui se trouve en bas à droite de l'image pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Quatrième et dernière chose, merci à tous ceux qui partagent déjà le lien des vidéos à ceux qui leur sont chers. Je pense qu'en faisant comme cela, vous faites une différence dans la vie de ceux qui vous sont chers et en leur proposant gratuitement les réflexions que je vous partage tous les vendredis matin. Alors, à très très bientôt. Merci pour votre coopération. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre engagement à grandir en conscience, en amour et en compétences.